Bonjour à tous. Je suis Johnny Gasperi. Je vais vous présenter avec plaisir des résultats qu'on a obtenus sur les trajectoires. Ça fait écho aux trajectoires paysagères, sauf que là, on va parler de trajectoires de déchets plastiques dans les hydrosystèmes et comment ce type de résultat peut aider les politiques publiques dans des stratégies de gestion. Mon collègue Bruno Tassin est également dans l'ambiance, enfin dans la salle. Voilà. Alors, juste avant de vous présenter quelques résultats, je voulais vous fournir des éléments de contexte. Ce qui est relativement intéressant avec la pollution plastique, c'est qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est fortement médiatisée, qu'on entend beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont distribués, en fait, et qui sont dans la littérature sans beaucoup d'argumentation scientifique. Par exemple, ici, je vous présente le cycle de vie tel que Plastique Europe laisse penser qu'il existe avec une production, une consommation et un recyclage et avec une boucle qui se boucle justement et avec un cycle de vie infini et vertueux. Cependant, en fait, lorsqu'on va utiliser ces plastiques, et bien, il y a des fuites qui se créent, donc soit des fuites qui se passent au niveau de la collecte ou au niveau des centres de tri, etc., etc. Et ces fuites, entraînent une pollution plastique au niveau des hydrosystèmes. Aujourd'hui, ces fuites, on estime, voilà, qu'elles sont entre 0,4 et 4 millions de tonnes par an. Mais pour l'estimation de ces fuites, en fait, on dispose de très très peu d'éléments scientifiques robustes qui nous permettent de vérifier ces chiffres. Donc l'idée, c'est d'essayer, à travers un projet qui a été initié il y a 2 ans, le projet Macroplast, d'initier en fait des questions sur la quantification des flux transitant en Seine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui est multi-équipe, qui a été construit avec de multi-acteurs. Donc tout d'abord, des équipes scientifiques, le LESU, le CEREMA, l'IFREMER, et puis des structures comme le GIP qui nous permet d'articuler avec les opérationnels, le tissu associatif, Naturelin, Maison de l'Estuaire, SOS Mal de Seine, et puis également des instituts, on va dire des structures institutionnelles comme le ministère de la Transition écologique, les collectivités, le port de Rouen, etc. L'idée, voilà, c'était vraiment de co-construire et de profiter de toutes les opportunités qui sont créées sur le territoire pour répondre à ces questions scientifiques. Donc, l'objectif du projet Macroplast, c'était quel flux transite en Seine. Et donc, pour ça, on avait différentes options, des options de modélisation conceptuelle. Donc, je ne vais pas forcément revenir là-dessus parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Des options de, on va calculer des concentrations massiques de plastique par mètre cube d'eau, soit par des barrages flottants, soit des comptages visuels, soit des filets, soit des centrales hydro. Et puis après, avec des extrapolations, déterminer des flux. Soit, cette dernière méthode ici sur la droite, qui est la plus originale, c'est une méthode qu'on pourrait appeler, qui est assimilée un petit peu à l'écologie, de capture, lâcher, capture. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans ce cadre-là, dans cette dernière méthode de lâcher, capture. Donc, pour réaliser cette méthode et d'estimer des flux, on a décidé de marquer des déchets, avec des balises GPS, comme vous pouvez voir ici, pour déterminer un taux de collecte et une dynamique de transfert. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'aval de l'estuaire, on a une entreprise qui s'appelle Naturelin, qui nettoie 20 km de berges chaque semaine, qui emploie 4 hommes équivalents temps plein pour nettoyer ces berges. Et donc, en couplant ces objets et les Naturelin, on arrive à avoir cette approche de capture et de lâcher, capture. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi toutes ces trajectoires avec des GPS. Donc on a soit des balises qui sont semi-immergées, soit des balises flottantes. Voilà. Et de s'interroger sur les taux de collecte et les probabilités d'atteindre la mer. Alors ici, c'est une carte qui vous représente l'ensemble des trajectoires qui ont été acquises au cours de ce projet. Donc 39 trajectoires ont été acquises dans l'estuaire de la Seine et 11 trajectoires sur la partie amont du bassin de la Seine. Alors c'est des trajectoires qui peuvent aller de 1 à 60 jours. 1, quand cette balise va se prendre très rapidement dans une structure qui ne nous permet pas de récupérer cette balise, ou 60 jours. Alors, ici, je vous présente une première représentation très simpliste de ces trajectoires. Donc, nous avons juste le PK du fleuve entre l'amont sur le bas et l'aval sur le haut. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc la séparation, c'est avec le barrage de pose. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, le barrage de pose qui est au PK à peu près 200 km. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que tout d'abord, on peut, en fait, ce jeu de données de 50 trajectoires, on peut l'interpréter de différentes manières. On peut regarder les distances parcourues, le temps de parcours, etc. C'est une mine d'informations très très riche. Voilà. Une première représentation, c'est tout simplement de représenter les distances nettes parcourues. Donc c'est le point de départ, c'est là où on l'a lâché, et le point d'arrivée. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, sur la zone amont, on va avoir des trajectoires qui ont des distances nettes qui sont relativement faibles. Tandis que sur l'aval, on va avoir des distances nettes qui sont un petit peu plus importantes, avec des distances parcourues qui sont un petit peu plus importantes. Premier enseignement de cette étude, c'est que en fait, ces déchets, voilà, vont s'échouer sur les berges. Elles vont s'échouer à un moment donné ou l'autre au cours de leur transfert. Et que sur l'ensemble des déchets qu'on a lancés, voilà, une seule balise a atteint la mer après 6 mois. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien cette petite animation. Ici, j'ai focalisé sur une trajectoire dans l'estuaire de Seine où on voit en effet que la balise, elle est soumise à des mouvements de va-et-vient, un peu des sortes d'effets zigzag, voilà, où on a en fait deux phénomènes. En fait, on a la marée qui va venir combattre le débit de la rivière, qui fait cette oscillation, voilà, du déchet plastique dans l'estuaire. Alors, pour compléter un petit peu la représentation très simpliste de la distance nette tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est qu'on peut faire tout un tas de statistiques sur ces 50 trajectoires. Et si on se concentre seulement sur les trajectoires acquises dans l'estuaire, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on a des conditions faibles de débit, eh ben, on va avoir un forçage hydrodynamique par la marée. C'est-à-dire que le forçage par la marée est très important au début de la rivière et limite, on va presque avoir un remont, une. Enfin, les déchets vont presque remonter l'estuaire parce qu'on a des effets de marée qui sont plus importants que le débit de la rivière. Ce phénomène, il n'est pas du tout observé lorsqu'on a des crues avec des fortes conditions de débit, où là, on va avoir une distance totale qui est presque proche de la distance nette, et là où le débit de la rivière est un forçage hydraulique important, il est presque plus important que la marée. Alors, on a forcément pendant la crue des vitesses de déplacement qui sont plus rapides et une augmentation de la distance nette et on a une sorte de chasse des débits plastiques vers l'estuaire. Ça, on va le voir très clairement avec le petit gif suivant. Pour ces crues, elles ont un motif un petit peu différent des conditions hydrodynamiques de moyen ou faible débit. En fait, quand on fait des moyens ou faible débit, on voit qu'il y a une succession d'étapes de remobilisation, d'échouage, remobilisation, échouage. Quand on a une crue, en fait, on voit qu'il y a du transport, remobilisation et un échouage assez haut. En fait, ces trajectoires de crue, elles se différencient des autres trajectoires. On imagine que c'est parce que ces déchets plastiques vont être déposés sur des côtes plus importantes, plus hautes, et qui font qu'on a un stockage haut sur les berges et des probabilités de remobilisation beaucoup plus faibles. Alors justement, ici, ce que je vous présente, c'est lorsqu'on a une crue, donc quatre balises ont été lancées en même temps, simultanément. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces déchets plastiques, ils subissent cet effet zigzag dû à l'effet de la marée, mais ils poursuivent bien leur descente au cours de l'estuaire. Donc là, il y a cette chasse qui est très visible des déchets plastiques lors de la crue. Alors, quand on superpose l'ensemble de ces trajectoires sur l'estuaire, on a ce qu'on appelle une carte de chaleur. Et cette carte des chaleurs, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'identifier des zones d'accumulation. En fait, ces cartes de chaleur, c'est simplement la probabilité de venir s'échouer pour un GPS à cet endroit-là. Et quand on superpose ces cartes, en fait, cette carte de chaleur avec la connaissance du bassin, ben, on se rend compte que ces cartes de chaleur correspondent pour la plupart à des zones d'accumulation. Donc, ces zones d'accumulation, on les connaît grâce au travail de SOS Mal de Seine et puis aux informations études complémentaires du GIPS Sénaval, où aujourd'hui, on dispose d'une carte très précise de ces zones d'accumulation. Alors, en ce qui concerne les connaissances acquises sur la Seine, eh ben, on a vu ces épisodes d'échouage-remobilisation et donc de transfert bidirectionnel favorisé par la marée. Que ces dynamiques de court terme et long terme étaient complexes parce qu'elles sont chaotiques et elles sont non linéaires. Voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les conditions de fortage sont soit la marée lorsqu'on a des faibles débits, soit le débit du fleuve, voilà, lorsqu'on va être en crue, et le potentiel outil de zone d'accumulation. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, ben voilà, on a acquis des jolis résultats sur la Seine, très originaux, mais comment et dans quelle mesure on peut extrapoler ces résultats à d'autres fleuves? Donc, on a décidé d'essayer de tenter une comparaison avec l'estuaire de la Loire. Donc l'estuaire de la Loire et de la Seine, donc ils ont une superficie relativement proche, 50 km² dans le cas de la Seine, 60 km² pour la Loire, mais il y a une différence qui est quand même assez importante, ça va être le débit du fleuve. Donc c'est un cul moyen à Vernon aux alentours de 400 mètres cubes secondes pour la Seine contre 825 mètres cubes pour la Loire. Donc c'est deux estuaires macro-tidaux, donc avec des manages importants, mais un fonctionnement forcément hydrodynamique et des caractéristiques propres suite à cette géomorphologie. Alors aujourd'hui sur la Loire, on a cinq trajectoires qui sont en cours d'acquisition. Voilà. Ces cinq trajectoires, bien qu'elles soient aujourd'hui, elles constituent une base de données relativement faible, qu'est-ce qu'elles nous permettent de vérifier? En fait, sur ces cinq trajectoires, on voit exactement comme sur la Seine ces épisodes d'échouage-remobilisation, échouage-remobilisation en fonction de la marée. Elles nous permettent aussi de vérifier que, selon les conditions hydrodynamiques, qu'on va avoir une influence, un forçage soit de la marée, soit du débit du fleuve. Et enfin, un échouage aussi sur les côtes élevées. Alors ici, je vous montre un petit exemple de trajectoire que nous avons obtenue sur Nantes. Donc ici, vous avez Nantes, qui ont été relâchées au niveau de la pointe de l'île. Et on voit que cette balise GPS, elle s'échoue premièrement sur les côtes, elle est remobilisée par un phénomène de marée, puis après, elle repart dans un étier. Deuxième enseignement de ces cinq trajectoires sur la Loire, c'est l'identification des zones d'accumulation. Oui, cet outil nous permet de repérer des zones d'accumulation, mais premier constat, c'est que il semblerait que ces zones d'accumulation sur la Loire, à l'aval de Nantes, semblent beaucoup moins nombreuses que ce qu'on peut observer sur la Seine. En fait, l'hydromorphologie de l'estuaire entre l'estuaire de la Seine qui est particulièrement méandré par rapport à celui de la Seine pourrait expliquer ces différences du nombre de zones d'accumulation. Ici, exactement pareil, comment cette zone d'accumulation a été repérée au niveau de Nantes, c'est-à-dire qu'un déchet a été, pardon, un GPS marqué a été lancé au niveau de l'île de Nantes. Il a fait son petit chemin pareil avec succession échouage, remobilisation, et il est venu ici s'échouer et s'immobiliser complètement sur une île qu'on appelle l'île de la Motte. C'est une île qui est assez régulièrement inondée des crues ou de phénomènes de forte marée. Et sur cette île, voilà, on a pu participer très récemment à un nettoyage où c'est une zone d'accumulation très importante. Donc aujourd'hui, les objectifs, enfin les poursuites de ces travaux, c'est forcément la poursuite de l'acquisition de ces trajectoires sur la Loire. Donc ça, c'est quelque chose qui va être possible grâce à un projet Placinium que nous devons obtenir. On peut aussi Pardon?
Vous reste 2 minutes.
Oh, je vais être largement bien. On peut aussi se poser des questions sur les autres fleuves, questionnement sur le Rhône. Alors, j'ai vu qu'il y avait Marina Cocri qui était aussi dans la salle, donc on pourra reparler du Rhône. Le Rhône, ça ne se comporte pas du tout pareil parce que le Rhône, en fait, c'est une succession de barrages. On s'est amusé un petit peu à lancer des GPS dans le Rhône. On n'a pas du tout le même comportement que l'effet marée d'ailleurs. On ne parle pas d'estuaire, mais de delta, etc. Et surtout, la question finale, c'est extrapolable, mais dans quel objectif? Qu'est-ce qu'on veut savoir exactement? Je vous rappelle que l'objectif initial du projet Macroplace, c'est les flux qui transitent dans la Seine et que ces trajectoires, elles ont été acquises pour avoir une idée de ces flux. Voilà. Ce n'est pas forcément des questions de processus. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.